Question d'Islam par Al Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'approche rationaliste du fait religieux, de la théologie, et il est bon de faire connaître le mouvement du néo-mu'tazilisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le mu'tazilisme? Certains le savent, d'autres le savent un peu moins. Et c'est pour ça que nous sommes en présence du président de l'Association pour la renaissance de l'islam mu'tazilite. Et donc, toute l'émission sera consacrée d'abord aux mu'tazilites historiques et puis cette volonté de faire renaître ce mouvement avec le professeur Fakhr Korshan. Fakhr Korshan, bonjour.
Bonjour, Alain.
Merci vraiment de nous faire l'amitié de venir nous parler de votre volonté à vous-même qui présidez cette association, la RIM, l'Association pour la renaissance de l'islam mu'tazilite. Qui sont les mu'tazilites?
Alors, les mu'tazilites, ce sont des représentants d'un courant musulman ancien, l'un des tout premiers courants de l'islam, et qui avait pour particularité de mettre en avant la raison. Il y a un adage mu'tazilite très connu, « Al-aqlu awwalu al-adilla », la raison est la première des preuves, mais on peut comprendre ça comme voulant dire la raison comme premier fondement. Et donc, les mu'tazilites ont dit qu'il fallait comprendre la religion en utilisant d'abord et avant tout la raison.
Et ceci entre en résonance avec un hadith, un aphorisme, une maxime du prophète connu et qui dit « Tout ce que l'entendement humain ne l'intègre pas, ne l'accepte pas, n'est pas religion. »
Tout à fait.
Alors on reviendra tout au long de l'émission à la fois sur l'étymologie même du mot « mu'tazilisme », les mu'tazilites, on en a quelques-unes. Et j'ai envie de vous poser d'emblée cette question. Quelques intellectuels musulmans et non musulmans s'étaient émus lors de la fameuse controverse, mais qui est déjà derrière nous, suscitée par le cours conférence, le discours de l'intellectuel Ratzinger, le pape Benoît XVI, lorsque, lors de ce discours, a essayé de faire comprendre que le rationalisme, l'usage de la raison, du logos grec, n'était pas en contexte islamique. Et donc l'émotion, c'était soit c'est un grand intellectuel et il ne peut pas ignorer, en tout cas au moins le courant mu'tazilite, soit il le savait et ce n'était peut-être pas normal pour le pape de le passer sous silence.
Je n'aime pas utiliser le mot rationalisme, hein, parce que dans le contexte philosophique, rationalisme renvoie à Platon, avec un côté très a priori et abstrait, ce que les mu'tazilites, je ne pense pas qu'ils partageaient ce point de vue-là. Donc plutôt rationnel, c'est-à-dire l'approche rationnelle en islam, est quelque chose de très ancien. Je reviens sur ce point-là parce que c'est vraiment un point important. Le mu'tazilisme a été l'une des toutes premières doctrines, c'est-à-dire une des toutes premières écoles théologiques, si ce n'est la première école théologique en islam.
Nous ne sommes pas dans une approche ni apologétique, ni faire le panégyrisme du mu'tazilisme, mais d'aucuns disent que c'est même la première approche rationnelle, donc je ne dis plus rationaliste, j'ai appris la leçon, dans la réflexion théologique, dans le monothéisme d'une manière générale. Là, c'est dans sa version, sa coloration islamique.
Il y a une très grande influence du mu'tazilisme sur les autres doctrines, sur les autres traditions. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, l'une des dernières découvertes qu'on a faites sur les manuscrits mu'tazilites, ça a été une découverte qui a été faite dans une guénisa au Caire. C'est-à-dire, vous savez, les guénisas, ce sont dans les synagogues, c'était des endroits où on rangeait les Torahs ou les textes religieux qui étaient un peu anciens. Et donc, il y a eu un effondrement au 19e siècle, il me semble, la fin du 19e siècle au Caire, dans une guénisa karaïte, dans une synagogue karaïte, et je reviendrai sur le karaïsme. Oui. Et donc, on a découvert au milieu des textes qui étaient là, on a découvert des textes mu'tazilites, notamment d'Al-Khayat, qui était Al-Intisar, je crois, le livre de la victoire. Et qui était donc un auteur mu'tazilite, et aussi des livres, je crois, du Ravi Abdel Jabbar, Khadija Abdel-Jabbar, mais il y a eu d'autres découvertes plus tard au Yémen, et au Yémen en contexte zaïdite. Donc
on est au milieu chiite.
On est au milieu chiite. Et ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans le livre La philosophie médiévale d'Alain de Libera, on voit, il souligne l'importance d'Abu Hashim al-Jubai, pas seulement dans le cadre islamique, mais aussi dans un cadre plus large. Puisqu'on parle les Karaïtes, on appelle aussi le karaïsme, qui est un courant du judaïsme, on l'appelle aussi le moutazilisme juif. De même qu'il y a eu apparemment un moutazilisme chrétien en milieu byzantin, mais on n'a pratiquement aucune trace de ce courant-là.
Alors, tout comme vous, je ne vais pas trop m'y aventurer. J'ai cru comprendre que même l'école de Salamanque était d'inspiration moutazilite, si on revient au milieu chrétien, et que pour l'aspect plutôt judaïque des choses, quelqu'un comme Maïmonide, dans son approche rationnelle aussi des faits, son œuvre serait le conditionnel et d'usage de factures moutazilites.
Maïmonide a beaucoup controversé avec un certain Saadia Gaon. Et Saadia Gaon était quelqu'un qui était très influencé par le moutazilisme. Vous savez, quand on dit quand vous passez votre temps à débattre avec quelqu'un, vous finissez par prendre des teintes, en tout cas, de la personne à qui vous débattez. Et je pense qu'on peut... Maïmonide a sans doute été aussi influencé de ce côté-là.
Et à ce sujet, on connaît les thèses moutazilites davantage grâce ou à cause des controverses suscitées par leurs contradicteurs que leur propre œuvre. Donc oui, c'est par interpolation, maintenant, à travers l'histoire, qu'on a pu construire, avoir l'architecture globale de leur doctrine et de leur pensée. Fakir Korshan, revenons maintenant à l'étymologie du mot qui suscite beaucoup de débats. Qu'est-ce que c'est que donc le moutazilisme? Qu'est-ce qu'on entend par, étymologiquement parlant, par les moutazilites?
Alors, le mot moutazila vient de l'arabe atazala, qui veut dire se retirer, se mettre de côté, faire action de s'abstenir.
S'isoler.
Et donc, il y a eu deux grandes explications du mot. Je vais donner la première, qui est celle que tout le monde découvrira si jamais on tape moutazilisme sur... comme on dit, cher Google, on tombera dessus. La première définition qui est donnée est celle qui remonte à l'époque. On est au début du 8e siècle, dans les années 720, un peu avant 720, à Basra, en Irak actuel. Dans la mosquée de Basra, il y avait un grand maître, un grand tabi'i, donc ce qui fait partie des générations les plus respectées, qui s'appelait Hassan...
C'est Hassan al-Basri. Hassan al-Basri,
oui, voilà, merci.
C'est comme ça qu'il est connu.
Tout à fait.
Et vous avez dit qu'il était tabi'i, nous expliquerons le mot pour les auditeurs, c'est qu'il était disciple d'un compagnon du prophète.
C'est ça. Et donc ce monsieur-là était quand même une très très grande sommité de la religion, et donc il avait un cercle de disciples, et il y avait beaucoup de gens qui venaient l'interroger pour des questions de différents ordres. Et donc, un jour, un monsieur rentre dans la mosquée. On était en pleine controverse entre deux tendances. Une qu'on va désigner sous le nom de Kharijit, Khawarij, donc les
sécessionnistes, voilà, les sortants, ceux qui ne sont ni chiites ni sunnites, pour faire simple.
Voilà. Même si à l'époque des finances,
on ne disait pas les choses comme ça, sunnites,
c'est quand même compliqué.
Vrai.
Et l'autre groupe, c'était les Murji'ah, les Murjites, qui eux... laissaient la décision à Dieu.
Ils suspendaient leur point de vue, ils différaient la décision à Dieu dans l'au-delà, le jour du jugement dernier.
En fait, si on parle de décision et de quoi on parle au juste, c'était la grande question, la grande controverse, c'était de savoir un croyant qui commet, donc un musulman, qui commet un grand péché. Est-ce qu'on peut le considérer comme musulman ou est-ce qu'on doit le considérer comme un infidèle, quelqu'un qui est abjuré? Les Kharijites disaient, un musulman qui commet un péché, d'ailleurs certains ont dit même un péché qui ne soit pas forcément grave, hein, même un péché.
On a parlé des prévaricateurs.
C'est ça.
Le fasiq.
Voilà. Et en fait, les Kharijites disaient, un musulman qui a commis un grand péché, ou un péché tout court, était quelqu'un qui était condamné à l'enfer. C'était donc un infidèle. Les Murjites disaient, on ne peut pas dire ça. C'est seulement Dieu qui peut décider si la personne ira en enfer ou non. Et donc, ce monsieur qui rentre dans la mosquée pour demander à Hassan al-Basri son avis, Hassan al-Basri, nous dit-on, selon certaines versions, n'a pas le temps de répondre qu'un de ses disciples, du nom de Wasil ibn Atta, alors en français, je vais mal prononcer Wasil ibn Atta.
Aussi, Wasil, fils de Atta, oui, ça. Oui, on francise les noms, oui.
Voilà. Et Wasil se lève et il donne sa propre réponse. Il dit, un musulman qui commet un grand péché n'est ni coupable, ni un infidèle, ni un croyant, il est dans la demeure intermédiaire. Il entre ces deux maisons, de la croyance et de l'infidélité. Al-manzila bayn al-manzilatayn. Et à ce moment-là, nous dit-on, parce que si je dis nous dit-on, c'est que j'y crois très moyennement.
C'est que nous ne sommes pas sûrs, mais ça c'est la version standard.
Voilà, la version standard. Et donc, Wasil à ce moment-là se serait levé et serait parti s'appuyer sur une colonne de la mosquée qui est un peu à l'écart du groupe, du cercle des disciples.
Pardonnez-moi, Fakir Korshan, ça c'est le lendemain. Parce qu'il y avait une mini-controverse qui se serait instaurée entre le grand maître Hassan al-Basri et son disciple ou un de ses étudiants assis en demi-cercle autour du maître. Et donc le statut du prévaricateur qui est dans une situation intermédiaire entre la mécréance totale et la fidélité. Et donc ce mini-débat qui s'est instauré n'a pas été tranché, ou du moins d'autorité le maître a décidé de dire que plutôt c'est un infidèle.
Voilà. Alors,
et le lendemain, il se met à l'écart.
Voilà. Et quand il part à l'écart, donc il se met à l'écart.
Enfin, il s'adosse à une autre colonne.
Donc il reste dans la mosquée, dans le même lieu, mais plus dans le même groupe. Et donc, suivi par certains de ses condisciples, formant son propre cercle.
Plus tard, c'est après, pardon si j'ai l'air de venir sur cette anecdote, c'est que le maître se rend compte que voici le bout en quelque sorte, il n'est plus dans le demi-cercle et donc Hassan, le maître de Bassora, dit voici nous a snobé en quelque sorte, il s'est mis à l'écart, il s'est isolé, il s'est séparé de nous.
Voilà, ce qui donne en arabe atazala anna, d'où le nom Mu'tazila.
Et donc, quelques condisciples se sont rendus compte effectivement que Wasil n'était pas avec eux, mais séduits par les arguments de la veille, l'ont rejoint, et c'est comme ça que physiquement, j'allais dire, on témoigne de la naissance de l'école.
Voilà, ça c'est la version qui est la plus courante. Hein. Parce que quand on regarde d'un point de vue mutazilite, c'est-à-dire chez les auteurs mutazilites, on n'a pas du tout ce son de cloche-là. C'est-à-dire qu'on a plutôt l'idée que... D'ailleurs, vous savez qu'on considère Hassan al-Basri dans les tabaqat al-Mu'tazila, c'est-à-dire qu'il est reconnu comme un des maîtres de l'école.
Dans les classes, voilà. Dans les catégories des maîtres à
voilà.
penser du Mu'tazilisme.
On dit qu'il n'y a jamais eu de rupture et que si rupture il y a eu, c'est après la mort de Hassan. Donc c'est
en 728.
Voilà, donc il y a bon, dans le contexte Mu'tazilite, il y a une autre définition. Après, même dans le contexte Mu'tazilite, il y a quand même problème parce que qu'est-ce que ça veut dire Mu'tazila du coup? On a une autre mention du nom, du mot, c'est à l'occasion de la première bataille entre musulmans. Et la première bataille entre musulmans, on pense tout de suite à Siffin, mais c'est pas Siffin, c'est Mawqi'at al-Jamal, donc c'est
la bataille du chameau,
entre Aïcha et Ali. Et un groupe de musulmans a refusé de prendre parti, parce qu'ils n'ont pas accepté que des musulmans tuent d'autres musulmans. Et donc, les historiens à l'époque ont parlé de Mu'tazila, de ceux qui ont fait sécession, qui se sont abstenus, qui ont fait retraite. Faire retraite de quoi? Ben de la guerre, et de cette confrontation physique entre les deux groupes. Et donc, on a certains compagnons qui sont connus, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdallah ibn Omar, d'autres, Al-Ahnaf ibn Qays, donc qui se sont abstenus de faire partie du conflit, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'avis, ça ne veut pas dire qu'ils considéraient que les deux avaient tort, il y avait des avis, mais ils n'ont pas admis d'aller jusqu'à ce point-là, qui était l'opposition physique. Et donc, les historiens, comme Tabari, comme d'autres, vont appeler ces gens-là de Mu'tazila. Alors après, quel rapport entre ces Mu'tazila-là, qui étaient donc en contexte purement politique, et la doctrine, le courant, le mouvement Mu'tazilite, c'est ça qui est un peu plus compliqué à établir. Parce que si on va dans l'histoire, c'est-à-dire dans que disent les Mu'tazila de leur propre histoire, les Mu'tazila vous disent que Wasil n'est pas le fondateur de l'école, contrairement à ce que vous pouvez trouver partout. Wasil fait partie de la quatrième génération. Sachant que la première génération, bon, on ne compte pas le prophète, évidemment, parce que c'est le point zéro, le point de départ. Et donc, il y a le premier imam. Et là, il y a une Silsilat Ali, c'est-à-dire
une sorte de chaîne.
De chaîne qui remonte jusqu'à Ali. Puisque après le prophète, donc le prophète enseigne à ses disciples, parmi ses disciples...
L'usage de la raison.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
L'aphorisme auquel je faisais allusion tout à l'heure, je ne l'ai pas dit en arabe, mais je le dirai et je le retraduirai. « Kullu ma la yataqabbaluhu l'aqlu laysa bidin » Tout ce que n'accepte pas la raison, l'entendement humain, ne fait pas partie de la religion, ou ce n'est pas une religion.
Exactement. Bah, ça, c'est voilà. Typiquement. Mais je pensais aussi à un autre hadith qui revient à l'imam Ali, que vous connaissez, qui dit que le Coran, c'est-à-dire le livre qui se trouve entre les deux couvertures, ne parle pas, ce sont les hommes qui le font parler. Et c'est vraiment, ça revient un peu, ça fait un lien avec cette idée que comment les hommes font parler le Coran, bah, en utilisant la raison.
Le Coran est entre deux couvertures, il ne parle pas de lui-même, ce sont les hommes qui le font parler.
C'est ça. Et donc, pour les Mu'tazilites, le premier imam, c'est Ali. Ali a transmis à un de ses fils, qui n'était pas un fils de Fatima, mais qui était Muhammad ibn al-Hanafiya. Et Muhammad a transmis à son fils, Abu Hashim Abdallah. Et Abu Hashim Abdallah avait parmi ses disciples, donc le fameux Wasl ibn Atta. Mais Wasl, pourquoi il est si important? Parce que c'était quelqu'un qui a marqué son époque par son éloquence. D'autant plus qu'il avait un problème d'élocution.
Il ne savait pas prononcer le R.
Voilà, le R roulé, comme on dit. Il n'arrivait pas à le prononcer. Et ce qui nous est arrivé, ce qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, alors qu'il a écrit beaucoup, mais on a aucun traité de Wasl, c'est un discours, un prêche, qu'il avait écrit, qu'il avait prononcé, très éloquent, mais qui faisait abstraction de la lettre Ra. Et donc, ça a un peu marqué les esprits. Et juste une dernière chose, parce que c'est important. Wasl a aussi mis en place une organisation missionnaire pour faire du... Alors, je sais que prosélyte, c'est celui qui adhère, mais pour aller prêcher la bonne parole.
Oui. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui de l'approche rationnelle de la théologie et nous nous intéressons particulièrement à l'école Mu'tazilite, ces premiers rationalistes de l'islam, et surtout le néo-mu'tazilisme avec le président de l'association pour la renaissance de l'islam Mu'tazilite, Fakhr Korshan, qui est à la fois philosophe et théologien. Passons, si vous voulez bien, Fakhr Korshan, cette fois-ci, à la doctrine du mu'tazilisme. Sur quoi repose l'architecture, l'armature même doctrinale du mu'tazilisme?
Ce sont les fameux cinq principes mu'tazilites. Le premier, c'est l'unicité de Dieu, Tawhid. Le deuxième point, c'est la justice, l'adl. Le troisième point,
la justice divine.
Divine, oui, pardon. C'est la justice divine. Le troisième point, c'est le loi de l'Ouahid. Donc, c'est la promesse du paradis et la menace de l'enfer, à comprendre éternellement dans les deux cas. Si on y rentre, c'est pour toujours. Il n'y a pas de... Quatrième principe, c'est le fameux, on en a déjà parlé, Mazila Ben Mazila Tain, la demeure intermédiaire, la demeure entre les deux demeures. Et le cinquième principe, c'est l'ordre moral. Al-amr bil ma'ruf wa nahy an munkar. Donc, l'ordre de faire le convenable et d'interdire le blâmable.
La commanderie du bien ou du convenable et la proscription ou l'interdiction du répréhensible.
Voilà, c'est ça. Alors, je tiens beaucoup à la question du convenable parce qu'en arabe, c'est le ma'rouf. C'est pas le hassan.
Oui, oui.
Donc c'est vraiment cette question-là de ce qui est admis.
Ou du convenable coutumier ou quelque chose comme ça.
C'est ça. Il y a la racine orf. Oui. Donc il y a... Et je trouve que c'est... Alors... Je suis un peu brouillon parce que il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais ce commandement-là, éthique, me paraît très important parce que, en disant ma'arouf, ça laisse une sorte de latitude en fonction des époques, en fonction des temps, en fonction des endroits. Et donc, parce que le ma'aruf change. Alors, il y a une base commune qui est, je dirais, une base morale. Mais comment on sait ce qui est bien ou pas bien? Chez les mutazilites, c'est par l'usage de la raison. Puisque c'est le tahsin et tarbih al-aqlain. C'est-à-dire que la capacité de la raison à établir ce qui est vrai ou faux, mais donc ce qui est aussi bien ou mauvais, et pas bien. Et donc, il y a aussi, et c'est là où, en fait, pouvoir faire le lien avec les autres traditions, parce que dans l'école mutazilite, savoir ce qui est bien ou pas bien, juste ou injuste, n'est pas lié à la révélation ou à un livre, mais lié à la capacité de réfléchir, de raisonner. Et si vous raisonnez, il n'y aura pas de contradiction avec le texte révélé. Alors ça, on pourra y revenir si vous voulez.
Et quelqu'un comme Averroès, plus tard, de facture tout aussi mutazilite, dira des choses du même ordre. S'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle.
Ça, c'est un principe qu'on retrouve déjà chez Aristote, et c'est un principe qui va être repris par les mutazilites, très clairement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'écrits et beaucoup d'encre à couler sur l'appartenance réelle ou supposée d'Averroès au mutazilisme. Alors lui, il dit que non, il dit qu'il connaît pas le mutazilisme, mais on sait que bon, c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'il écrit. Surtout que il dit ne pas connaître le mutazilisme, mais il connaît des mouvements qui sont quand même, qui étaient pas très présents en Andalousie. Et quand on regarde ce qu'il écrit, il prend toute la méthodologie et toute la pensée mutazilite, sauf que lui ne conclut pas, comme les mutazilites diront, le Coran est créé. Oui. Et lui, il ne dit pas.
Tenant compte du contexte qui fut le sien, etc., on est en plein XIIe siècle. Là, pour revenir à la naissance du mutazilisme et surtout à l'apogée, au fait de la pensée mutazilite, et nous verrons peut-être que c'est à cause de ça, quand il y a eu une collusion avec la politique, de fait, par la suite, il y a eu une sorte de disgrâce. On est donc fin 8e siècle, début 9e. Vous nous avez promis de passer en revue un à un ce quintuple principe ou les cinq principes. L'unicité de Dieu, d'accord, mais il en découle le fait que seul Dieu est incréé et pas nécessairement sa parole et donc la révélation et le Coran. De ce fait, ce n'est pas un Coran incréé.
Tout à fait. En fait, si on applique la raison, en fait, à la compréhension du tawhid. Si on dit que Dieu est un et absolument un, c'est que Dieu est un et absolument un. Alors, si je dis ça, vous allez me dire oui. C'est un peu une forme de tautologie, mais en fait, Dieu est un. Ça veut dire que d'une part, est-ce que je peux parler de la question la controverse entre l'essence et les attributs? Parce que c'est quand même quelque chose de fort. On est sur France Culture, donc je me dis, on peut le faire.
Et nos auditeurs vous en sortent en gré. En vous suivant, oui. Donc, il y a une controverse entre l'essence et les attributs.
C'est ça. C'est-à-dire que si vous défendez, le disent les musulmans et comme le prétendent les musulmans, le monothéisme pur, vous dites qu'il n'y a qu'un seul Dieu, forcément, et donc il n'y a qu'un seul incréé, il n'y a qu'une seule perfection totale, si vous voulez. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que la question des attributs, c'est quoi? La question des attributs, c'est de dire, est-ce que Dieu sait par son essence, ou est-ce que Dieu sait grâce à un attribut distinct de son essence, donc co-éternel, et de ce qui fait de lui qu'il est connaissant ou omniscient. Vous voyez? Je ne sais pas si je suis très clair, mais la question c'est, est-ce qu'il y a une seule essence unique, donc il y a une sorte de bloc unique, ou est-ce qu'en fait il y a un bloc, mais quand même, il y a des petits bouts à droite à gauche qui ne sont pas dans ce bloc-là, mais auquel, si vous voulez, Dieu, il est dépendant de ces blocs coéternels. Et si on considère qu'il y a de la coéternité, le monothéisme, il est un peu fissuré, quoi.
Oui, le contre-argument, mais je ne vais pas entrer dans la dite controverse classique et connue, c'est que la parole de Dieu lui est co-naturelle, elle lui est consubstantielle. Si je devais parler latin, je dirais qu'il y a là les ipsissima verba dei, et donc la parole divine étant elle-même une parcelle de Dieu, quand elle est consignée par écrit ou donnée au monde, ça fait partie de Dieu. Donc c'est l'argument donné par ceux qui disent que c'est le Coran est incréé. Si je devais donner un avis personnel, je me rangerais plutôt du côté des Mu'tazilites, mais je me devais de donner le contre-argument.
Non, vous avez raison, et c'est bien de, d'avoir les deux points de vue. Mais en tout cas, dans la pensée Mu'tazilite, dire que Dieu sait parce qu'il a un attribut co-éternel, c'est rompre l'unicité. Et donc ils ont dit Dieu sait par son essence, parce qu'il y a le savoir dans son essence. Et ce qu'on appelle des attributs, avec Abou Hashim Joubé et à partir du 9e, 10e siècle, on va plutôt parler de mode, de ahwel, et pas de sifa.
Ou d'état, ou de mode.
Voilà, oui. C'est-à-dire que l'essence reste une, inchangée, et il y a des modalités de manifestation différentes sans que l'essence ne change. Donc ça, c'est le tawhid, c'est donc l'unicité de Dieu, ça c'est le premier point. Et comme vous en avez parlé, la question du Coran, c'est-à-dire que considérer que le Coran est incréé, c'est considérer qu'il y a encore un co-éternel, donc la parole, comme vous l'avez très bien dit, et donc on ne peut pas l'accepter. Surtout que le Coran, il est écrit à une époque, enfin il a été mis en codex, si vous voulez, à une époque particulière, dans un contexte particulier, et il ne faut pas mettre de côté tout ce contexte-là. Il y a une clé de lecture, enfin dans le Coran, il y a un verset coranique qui serait un peu de clé, c'est le verset 7 de la sourate 3, qui dit que il y a des versets qui sont péremptoires, qui sont catégoriques, voilà. Oui. Et d'autres qui sont, alors j'aime pas dire ambivalent ou ambigu, je préfère plutôt le mot de semblant. Je sais pas si le mot est français, mais semblant, c'est-à-dire que ce sont des versets qui peuvent nous sembler ceci ou cela, mais en fait, faut faire attention. Et ça, c'est vrai, vraiment une clé de lecture. Et quand on dit ça, par exemple, pourquoi on peut pas dire que le Coran est incréé aussi? Parce que, donc il y a tout ce contexte-là qui doit être pris en compte. Et on prend, par exemple, je vais prendre le verset, la sourate,
Ah oui,
la fibre.
C'est une fibre de palmier.
C'est ça. Et en fait, pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que voilà comment commence cette sourate. Tabbat yada abi lahabin wa tab. C'est-à-dire que vous avez une référence à un personnage que périssent les mains d'Abu Lahab.
Qui est l'oncle du prophète. Voilà. Donc c'est contingent.
Oui, voilà. C'est-à-dire que, à moins de considérer qu'Abu Lahab soit éternel. Et dans ce cas-là, enfin, il y a d'autres versets qui font beaucoup de référence à des contextes très particuliers qu'on ne peut pas généraliser. Donc, il y a vraiment, dans le Coran, si vous voulez, l'idée qui est derrière l'idée de l'incréation du Coran, c'est l'idée de dire que le Coran est parfait, qu'il y a tout dedans. Or, dire que le Coran est créé, c'est dire que le Coran est une base, est une source, c'est un point de départ, mais qui doit être complet. Et là, je fais référence aussi à votre première référence du hadith du prophète et au deuxième hadith d'Ali. C'est-à-dire que le Coran doit être complet, doit se parfaire par l'usage de la raison.
Oui, et pour revenir aussi au verset 7 de la sourate 3, où il y a une distinction entre ce qui constitue la mère du livre, voilà une expression qui nécessite d'être bien explicitée, mais on le fera une autre fois, et les versets dont vous vous dites qu'il vaut mieux les qualifier de semblants, alors que d'autres disent qu'ils sont ambigus, équivoques, ou prétend à équivoques, ou amphibologiques, et ceux-là, seuls qui sont enracinés dans la science, ne pourront, et Dieu, il y a tout un débat. Ce verset lui-même est aussi amphibologique. C'est seul Dieu et ceux qui sont enracinés dans la science, donc qui font usage de la raison, qui comprendront le sens de ces versets. Et si je vous ai bien compris, Fakir Korshan, il y a aussi cette idée que, comme la révélation morcelée sur 23 années par moment épouse les contingences humaines, elle n'a pas été donnée de tout temps et de ce fait, elle n'est pas incréée, elle est créée puisque elle tient compte de l'évolution de la vie des hommes auxquels elle était destinée.
Et oui, et ça, c'est vraiment un aspect très important parce que c'est l'aspect un peu pratique. C'est-à-dire comment vous allez juger de la pertinence d'un propos, d'un discours, c'est par rapport aussi aux solutions qu'il peut vous offrir. Et quand vous avez le Coran qui répond aux problèmes de l'époque en fonction du arf, du contexte, des coutumes de l'endroit où il se déclare, où il se révèle, donc vous avez là l'occasion de mettre en pratique la pertinence et la sagesse. La sagesse qui est mise en pratique, donc, qui épouse les contingences de l'époque. Et c'est pour ça qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est contingent de l'époque, ce qui relève du contexte de l'époque, et ce qui, dans le texte, a vocation universelle je dirais, pour reprendre ce fameux mot, péremptoire.
Bon, ça, c'est déjà le premier point. Alors, le deuxième point, le deuxième principe, c'est la justice divine.
Oui, la justice divine, c'est l'idée que, et ça, c'est une idée auquel les Moutazilites ont beaucoup tenu dans l'histoire, c'est de dire que Dieu ne peut pas, on ne peut pas adosser à Dieu tout ce qui peut être de la vilenie, de la méchanceté, de l'arbitraire.
Le mal,
de manière générale. Le mal ne vient pas de Dieu. Et donc l'idée, c'est de dire que d'où il vient le mal? Il vient de notre liberté. Parce que nous pouvons faire le bien, nous pouvons aussi faire le mal. Sinon, on n'aurait pas la capacité de choisir si on était condamné à faire qu'une seule chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire En fait, si vous voulez, la justice, c'est vraiment l'aspect, concret de la sagesse divine. Dieu est sage, donc il est bon, il est juste. Il est omnipotent, mais... Comme il dit dans le verset, il s'est restreint à la rahma. Il s'est restreint à la... Alors, j'aime pas traduire ce mot-là parce qu'il est tellement énorme et qu'en français, on n'a pas de mot qui se rapproche de son sens. Mais c'est que Dieu est juste et donc il ne fait que ce qui est bon ou juste.
Donc, la rahma, si on accepte l'équivalent français, c'est la miséricorde. Dieu s'est prescrit à lui-même la bonté, la miséricorde et l'amour.
Oui, mais il y a tellement d'autres choses, que ça vient de Rahim, donc l'utérus,
la matrice,
donc c'est là où le fœtus se développe, il y a aussi la question de la chaleur, de la protection, de la sécurité, on peut rajouter beaucoup de choses derrière ce mot. Et donc, le deuxième principe, Dieu est juste, et Dieu est juste, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que Dieu ne va pas nous mettre en enfer, par exemple, pour quelque chose que lui-même aurait décrété, ce qui ferait de Dieu un arbitraire, ce qui ferait de Dieu quelqu'un d'inique. Enfin, quelqu'un. Ce serait de Dieu. On ne peut pas adhérer à ce principe-là en disant qu'on peut vivre sa vie en respectant, en étant juste, en faisant ceci et cela, et puis en se disant, après tout, ça se trouve, j'irai en enfer. Ça donnerait. Ce Dieu-là est un Dieu complètement arbitraire et complètement injuste. Et ça serait quand même fort du café, si j'ose dire, que d'avoir, par exemple, des rois qui seraient plus justes que Dieu. C'est pas possible.
Donc, il en découle nécessairement le libre arbitre conféré aux hommes, parce que la justice divine implique nécessairement que l'homme ou l'être humain est libre.
Tout à fait. Alors ça, c'est un point qui est très important, et c'est aussi un point de controverse, parce que quand vous dites que l'homme, l'être humain, est libre, qu'est-ce que vous sous-entendez? Vous sous-entendez qu'il crée ses actes. Et créer ces actes, là, on va vous dire, attendez, seul Dieu est créateur. Si vous dites que l'homme crée, vous créez une association, un shirk, dans le khalq al-af'al, dans la création des actes. Et donc, en fait, c'est un point qui a été très controversé, mais les Mu'tazilites ont dit non. Et c'est là, peut-être le point qui nous rapproche quelque part le plus de Dieu, c'est dans notre capacité d'être libre et de faire tout ce qu'on veut, quitte à faire quelque chose qui soit complètement absurde pour notre propre intérêt. Et donc, c'est parce que nous sommes libres, parce que nous pouvons choisir de faire ceci ou cela, qu'à la fin, c'est-à-dire au jugement dernier, que Dieu pourra nous juger et nous dire, toi, tu as mérité ceci et tu as mérité cela. Donc, ça, c'est un point très important.
Bien. Le troisième point étant la promesse et la menace. Ce qui est curieux, c'est qu'en langue arabe, ça se joue à une lettre près.
Tout à fait.
En français, la promesse des délices paradisiaques, la menace des tourments du feu.
Oui.
Donc, pour eux, c'est aussi un point essentiel dans la doctrine mu'tazilite.
Oui, c'est complètement lié au point précédent, c'est-à-dire qu'à la justice divine. Dans la pensée sunnite classique, aujourd'hui, vous trouvez l'idée que les musulmans, les gens qui sont musulmans, et même s'ils ont vécu leur vie en commettant les pires des péchés, ils iront en enfer pendant une période, et puis, après, in fine, ils iront au paradis. Pas de ça chez les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites vous disent, si vous allez en enfer, conformément aux descriptions qui sont données dans le Coran, si vous allez dans l'enfer, vous entrez en enfer, c'est définitif. Il n'y a pas de sortie. Après, est-ce que ça exclut la rahma justement divine? Est-ce que ça exclut le fait que Dieu décide finalement dans un geste de pardon, que c'est de miséricorde, de
Et ça, de clémence.
Ça, ça fait partie du rêve, tout à fait. Rien ne l'exclut, mais ça, ça du fait mystère. Partie du rêve, du mystère de Dieu. Par contre, on a des principes pour fonctionner sur Terre. On a des principes pour savoir, pour comprendre le message. Le message coranique, le message divin. Et dans ce message-là, il est dit, ceux qui iront en enfer, ils iront éternellement. Et d'ailleurs, il y a même un verset dans la sourate Al-Baqarah qui dit, ceux qui disent que l'enfer ne
la
touchera...
La sourate de la vache.
La vache, pardon. L'enfer, le feu ne nous touchera que quelques pour un temps et le Coran condamne cette version-là. Et donc, les Mu'tazila, ils ont dit, ceux qui auront mérité la justice, la récompense, ils iront éternellement. Et ceux qui auront mérité la punition, ils iront aussi éternellement. Donc, ça, c'est le troisième principe. Et donc, on comprend l'importance qu'on met en rapport avec ce qui existe par ailleurs. Le quatrième principe, c'est la demeure intermédiaire. Est-ce que j'y reviens? Mais en fait, c'est un principe qui est très important parce que, à l'époque, c'était aussi une question civique, j'allais dire, de droit civique. C'est-à-dire que si on décrétait que vous n'étiez plus musulman, vous perdiez vos droits. Pas droit d'hériter, pas droit de témoigner, pas droit de ceci, cela. Aujourd'hui, Manzila bayn al-manzilatayn, la demeure entre les deux demeures, peut être compris comme un principe de fonctionnement plus large, c'est-à-dire l'héritage, il faut prendre de l'héritage, mais il faut pas non plus rester trop, faut pas non plus s'inscrire dans une démarche quasiment salafiste où on va prendre l'héritage et en faire notre, on va l'adopter tel quel. Il faut trouver la juste mesure entre ce qui vient de l'héritage et qu'est-ce que nous-mêmes on doit produire comme par rapport à notre contexte, par rapport à nos réalités. Et là, on peut y voir un principe d'application très concrète, Manzila bayn al-manzilatayn. Il y aura encore d'autres choses à dire, hein, mais j'accélère.
À propos de ce quatrième point qui est le statut donc du croyant qui commet les péchés ici-bas, ce statut intermédiaire entre l'incroyant et le croyant, vous dites qu'il continue, si je vous ai bien compris, à agir et on le traite comme s'il était fidèle parmi les fidèles, son statut sera décrété ou tranché par Dieu le jour du jugement dernier, et donc ça dans un premier temps, il faut tenir compte du fait qu'il n'incombe pas aux hommes de sonder les cœurs. Mais il faut aller encore plus loin, c'est que la question de ce statut intermédiaire doit être aussi compris même dans les approches de la dévolution successorale, l'héritage, etc. Bien. Et le dernier point, alors ?
Le dernier point, c'est on en a déjà dit un mot aussi, c'est je vais reprendre votre mot, la commanderie.
La commanderie du convenable.
Du convenable, voilà, et l'interdiction du blâmable. Et donc, ici, c'est le principe éthique. Et c'est un principe qui est très fort parce que, ce qui m'intéresse, je reviens sur ce point-là, parce que c'est vraiment important, c'est le ma'rouf. C'est-à-dire que, on prend le bien, mais pas une sorte de bien qui serait éternel et toujours le même, mais ce bien-là, il épouse les contingences des lieux et des époques aussi. Et donc, ce qui fait que, en changeant de société, vous prenez l'avion, 3 heures de vol ou combien, vous allez voir que le ma'rouf, il peut avoir un shift, un petit changement. Mais c'est pas grave, parce que le cœur, il reste. Mais après, c'est dans la mise en application où on peut donc adopter des pratiques différentes. Ça, c'est vraiment très important.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui nous parlons d'approche au pluriel, rationnelle, du fait religieux, de la théologie, avec Fakhr Korshan, philosophe, théologien, président de l'Association pour la Renaissance de l'Islam Mu'tazilite. Et Fakhr Korshan, vous parlez plutôt, vous, de néo-mu'tazilisme. Vous militez, vous œuvrez pour cette renaissance d'un islam mu'tazilite ou de l'islam mu'tazilite. Ici, mu'tazilite est plutôt une épithète. Pourquoi le néo ? Vous pensez qu'il n'y a pas lieu à prendre les choses telles quelles, mais vous vous inspirez de l'audace intellectuelle, de la hardiesse, de l'état d'esprit des premiers mu'tazilites.
Parce que ils étaient, selon vous, d'abord adeptes de la raison et du logos, et ce sont eux qui ont compris le mieux qu'est-ce que c'est qu'une approche à la fois spirituelle ancrée dans le siècle.
Tout à fait, c'est-à-dire que quand on vous dit que c'est la raison qui est le premier fondement, pour prendre un peu de liberté par rapport à la traduction, on dit aussi que rationnellement, on ne peut pas vivre aujourd'hui comme on vivait au 7e, 8e siècle. C'est-à-dire que c'est un peu sous-entendu dedans. Si vous utilisez votre raison, c'est que votre raison, elle est éclairée à l'époque où vous vivez, à l'endroit où vous vivez. Et donc, vous ne pouvez pas, je ne suis pas dans une démarche, et nous ne sommes pas dans une démarche, dans l'association, qui consisterait à faire du salafisme moutazilite, c'est-à-dire le Qadir Abdeljabbar a dit, donc on fait. Ça n'aurait pas de sens. On reprend donc les fondements, les cinq principes qui nous donne en fait une compréhension, une lecture philosophique, une lecture spirituelle aussi du message islamique, de ce qu'est l'islam. Et puis on dit, ok, on prend ces cinq principes et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment les appliquer? Comment les mettre en pratique dans notre vie quotidienne? Et on s'aperçoit que la compréhension de l'islam selon les cinq principes nous met dans une situation où on est complètement, où on vit en harmonie avec notre époque, en harmonie avec l'endroit où on est. C'est vrai en France, c'est vrai en Tunisie, en Algérie, en Sénégal, où vous voulez. Et donc là, on se dit, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression en tout cas, que le texte coranique, il devient fertile, il produit des choses. Il produit des choses qui sont très réelles et qui sont très concrètes et qui sont très dans notre réalité d'aujourd'hui. Et il est capable de le faire encore dans des générations futures. La question, c'est, on sort de cette imitation, parce qu'il y a quand même, il faudrait dire peut-être un mot là-dessus, c'est-à-dire que dans toute l'histoire de l'islam, de la pensée musulmane, confessante, vous avez un peu deux tendances qui se sont affrontées. C'est les tendances, pour faire rapidement, les partisans de la raison et les partisans de l'imitation. En un contexte sunnite, c'est les partisans de l'imitation qui se sont imposés. Et quand on est dans l'imitation, on reproduit ce qui a été dit et fait avant. Or, on arrive à des choses qui sont complètement...
À des absurdités.
Complètement. C'est-à-dire qu'on entend des fois des avis, donc des fatwas, oui, des fatwas, mais complètement ridicule. Il y a un journaliste il y a quelques années qui s'est amusé à classer 5 fatwas les plus absurdes. Mais pourquoi on en arrive là? On en arrive là parce qu'on est dans l'imitation.
Oui.
Et je pense que quand on passe à un islam de la raison, tout d'un coup, l'islam devient très parlant dans notre époque.
J'aurais deux questions, Fakhr Korshan. La première, très tôt, c'est le neveu de Wasil ibn Atta, donc un Adam, qui dit quelque chose comme, c'était pas le même mot, parce que de nos jours, nous avons ce mouvement de ceux qui disent « seul le Coran nous oblige » ou « seul le Coran m'oblige », ce sont les coranistes. Donc, ils ont une lecture directe de la révélation coranique et puis ils sont très circonspects quant au recueil au pluriel des hadiths, des aphorismes du prophète. Et donc, si je reviens à son neveu, à Nadam, lui, il dit, je ne tiens pas compte de la sunna comme source de la tradition religieuse islamique. À ce moment-là, on l'avait pas traité de mécréant, quoi. Il avait un avis comme un autre. Et la seconde question, c'est, elle est d'un autre ordre. Comment, aujourd'hui, parmi les 5 piliers, les 5 points, les 5 principes de la doctrine mu'tazilite, comprenez-vous le troisième qui est la damnation éternelle et la félicité éternelle?
Alors, sur Al-Nazam, Al-Nazam a rejeté, c'est vrai qu'il a rejeté la sunna, mais il a rejeté dans un contexte où il y avait beaucoup de hadiths.
Une prolifération.
Voilà, et il n'y avait pas forcément de classement comme ça existait plus tard. Mais à son époque, ça a commencé un petit peu déjà. Mais lui, donc, il a rejeté, mais il n'a pas rejeté que ça. Hein. Il a rejeté aussi d'autres fondements du droit islamique. C'est ce qu'on appelle les usul al-fiqh. Il a rejeté, par exemple, le recours au ijma', au consensus. Il a dit qu'il n'y avait pas de consensus dans la communauté musulmane. Il a rejeté l'istihsan, le choix préférentiel. Il a rejeté aussi, oula, j'ai un trou de mémoire.
C'est-à-dire qu'il y avait une telle liberté qu'on pouvait entrer en opposition avec ce qui paraît de nos jours non négociable, alors qu'à ce moment-là, il avait cette possibilité de ne pas accepter tel ou tel aspect qui ne relève que de la construction humaine.
Voilà. Et le qiyas, c'est un dernier truc que j'ai oublié.
Le raisonnement
par analogie. Nadam, c'est vrai qu'à cette époque-là, ils avaient quand même, et d'ailleurs, ceci dit par rapport aux Moutazilites, et on peut dire aussi qu'il y a eu un peu deux grandes époques Moutazilites. Il y a une première époque qui était très marquée par une forme d'audace, comme celle d'un Nadam, justement, ou celle d'Abou Bakr al-Assam, par exemple, un grand imam qui a, on peut dire qu'il est concepteur de ce qu'on va appeler l'anarcho, l'islam anarchiste, je ne sais pas comment dire ça, mais il avait cette fameuse maxime dans laquelle il dit que si les gens cessaient d'être injustes, on se passerait d'imam. Imam au sens politique aussi. Hein.
Ça rappelle Spinoza qui disait que l'État est inversement proportionnel à l'éthique. S'il y avait l'éthique répandue parmi les hommes, on n'aurait pas besoin d'un État régulateur, en quelque sorte.
Exactement ça. Donc, à l'époque, il y avait une grande audace. Mais vers la deuxième époque, à partir du 10e, 11e siècle, on trouve un peu plus de frilosité chez les Moutazilites, parmi les plus connus, parce que c'est ceux dont on a les textes, comme Qadir Abdel-Jabbar, Zamakhshari ou Ibn Abi al-Hadid. Donc là, il y a plus de retenue par rapport à cette première époque. Donc, Nadam, il est vraiment le représentant. D'ailleurs, même aujourd'hui, chez les Moutazilites, je parle beaucoup avec des Moutazilites arabophones, et chez eux, ils sont très Nadamiens, si j'ose dire. La deuxième question, c'était sur le troisième principe, Al-Wa'd al-Wa'id. En fait, c'est simplement le
menace et promesse. Hein.
Voilà, la promesse du paradis et la menace de l'enfer. Mais ce qu'il faut sous-entendre ici, c'est vraiment la question éternelle. C'est-à-dire que
D'abord, est-ce que ça a un sens? Est-ce que l'approche est intellective, imaginative et symbolique, allégorique? Ou est-ce qu'il faut les prendre au premier degré, au pied de la lettre? Et même si c'est le cas, qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui finalement se complaît de la souffrance des êtres éternellement? Et puis, qu'est-ce que c'est que cette vie dans une félicité éternelle? Donc, c'est ça l'idée. Ça pouvait avoir un sens au 8e, 9e siècle. Est-ce que de nos jours, nous devons les prendre au pied de la lettre?
Alors, vous savez, en tant que prof de philosophie, je ne peux pas prendre les choses au pied de la lettre. C'est pas possible. Par contre, là où je pense que ce qui est vraiment important, l'insistance sur l'éternité, en fin de compte, in fine, c'est pas la question de savoir si on va aller en enfer éternellement ou pas. C'est la question de la logique. C'est la question de la cohérence. Vous avez un discours qui vous dit ceci. Et il ne dit pas cela, il dit ceci. Donc, pourquoi vous dites qu'il dit cela? Il est là le problème. Parce que ensuite, comme je vous l'ai dit, hein, la question finalement du raïb, c'est-à-dire de la fin du monde, de l'au-delà,
appelons-le le mystère, voilà, l'inconnaissable.
In fine, ça reste une question qui revient à Dieu et ça revient dans l'ordre de Dieu. Et c'est vrai que on a une conception de Dieu quand même qui est, s'il est juste, c'est parce qu'il est sage. Et on imagine, enfin, le sage, c'est le sage par excellence. Donc, on y accole aussi les notions, comme vous avez dit, de miséricorde, de rahma, de clémence, de pardon. Et donc, on peut très bien imaginer.
Et de magnanimité.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça a été dit même par des gens comme Ibn Taymiyyah en disant que le fana al-nar, c'est-à-dire que l'enfer sera finalement dissolu anéanti par Dieu. Pourquoi pas? Parce que ici, moi, ce qui me paraît vraiment important dans le troisième principe, c'est vraiment la question de la cohérence. C'est la question de, quand vous dites une chose, vous savez, c'est la logique. Je ne peux pas dire que je suis debout et assis en même temps.
La partie n'est pas plus grande que le tout.
Par exemple. Et je pense que ça peut paraître pas très important. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'il suffit d'aller voir un peu ce qui se dit en milieu théologique, en milieu religieux, les discours qui sont parfois dans des contradictions assez importantes. Et si on prend en considération le fait de ne pas avoir un discours incohérent, inconsistant, on dirait en langage philosophique, déjà, ça nous libère de pas mal de choses.
Fakhr Korshan, nous approchons du terme de notre émission. Peut-être un mot, si vous voulez bien, alors que ça nécessite beaucoup de développement. Comment se fait-il que le mu'tazilisme a décliné et puis n'a pas connu la fortune ou a connu plutôt l'infortune. Et la dernière chose sur laquelle nous finirons, ce néo-mortésilisme a-t-il de l'engouement, y a-t-il des adeptes?
Alors, je reviens sur la première question en vous disant que d'abord, le moutazilisme a connu un apogée, on dit. Mais seulement, je vais pas revenir sur la question du califat. La question des trois califes abbassides et moutazilites. Selon un auteur zaïdite, vous savez qu'il y a beaucoup, il y avait beaucoup plus de califes moutazilites, hein, c'est-à-dire même à l'époque omeyyade. Mais enfin bon, laissons cela. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est le fait que de revenir à l'organisation missionnaire de Wassel. Wassel, quand il a mis en place cette mission de ces missionnaires, ils ont eu un certain succès, notamment au Maghreb. Chose qu'on ne dit pas. Par exemple, les Arlabides, l'Ara Aliba en Tunisie, la première, qu'on considère en Tunisie comme étant la première dynastie quasiment indépendante musulmane, c'était des Moutazilites et de rite hanafite. Parce que, à part Mohamed Ier, qui était lui un malikite sunnite. Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que Idriss, quand il est arrivé au Maroc, qui n'était pas encore le Maroc évidemment, il a été soutenu par un leader, un chef d'une tribu des Aouriba, berbères, Abu Ishaq, Abu Layla Ishaq, qui était Moutazilite. Et qui a donné sa capitale à Idriss. Et pourquoi Idriss? Idriss était zaïdite. Les zaïdites chiites sont en même temps ont une théologie moutazilite. Donc il y a eu une certaine expansion. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu une certaine damnation memoriae. C'est-à-dire qu'on a un peu effacé de la mémoire. On a voulu effacer de la mémoire tout ce qui avait attrait au moutazilisme. Et ce qui fait qu'on n'a pas de connaissances sur la population, comment ils vivaient, est-ce qu'il y a eu beaucoup de moutazilites auprès de la population en général. Bon. Donc il y a eu quand même une certaine expansion, il y a eu un certain apogée à ce moment-là. Ensuite, ce qui va se passer, pour comprendre un peu le déclin, il faut revenir à la question de la sociologie. C'est-à-dire que à Bagdad, qui était le cœur de l'Empire musulman, la population n'était pas toute lettrée, n'était pas toute formée, n'était pas toute instruite. Et dans cette population-là, le discours plus, je dirais qu'il donnait plus de garanties en disant « il faut faire ça, il ne faut pas faire ça », avait plus de succès.
L'exhortation, le terme technique en grec, c'est la parénèse, l'homélie. On n'aura pas le temps de répondre à la question des néo-moutazilites, mais si vous nous promettez de revenir, Fakhar Korshan, pour parler de l'Association pour la Renaissance de l'Islam moutazilite, eh bien, nous vous serions très reconnaissants et nous vous en saurons gré.
Merci à vous.
Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé donc de l'école moutazilite. Vous retrouverez les références et les livres sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Jean-Michel Benoît et la réalisation est assumée par l'ami François Connac.